Voici la pause syndicale.
La pause syndicale.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir Fabien.
Alors on en a déjà parlé dans cette rubrique des difficultés des médias dits traditionnels autour de l'initiative Nobilag et du danger qu'elle a fait peser sur les médias de l'audiovisuel. Aujourd'hui, c'est sur le sort de la presse écrite que nous allons nous pencher ensemble.
Ben oui Fabien, donc je l'ai dit tout à l'heure, après la disparition de l'hebdo et la suppression de postes à l'ATS, on assiste aujourd'hui à la disparition de la version papier du matin avec des emplois menacés. Et pour en parler avec Claudia, on est allé rencontrer la syndicaliste Patricia Alcaraz de Syndicom qui mène la lutte depuis plusieurs années aux côtés des salariés de cette presse qui disparaît.
C'est une institution avec son café, avec son croissant, quelques minutes pour s'informer. Une habitude que les romans devront perdre le 21 juillet. Le matin sera numérique et cessera d'être imprimé.
Je me demande pourquoi.
Où que j'aille, tout le monde dit ça le matin. Partout.
On est attaché au café, à la maison, chez les amis. On est attaché au matin. Alors c'est une catastrophe.
Je lis le matin avec délice quand je suis dans les restaurants en attendre quelqu'un.
Bonjour Patricia Alcaraz.
Bonjour.
Le groupe Tamedia annonce l'arrêt de la publication papier du titre Le Matin, un des plus anciens de la presse romande, qui accompagne notre pause café depuis des générations. Est-ce que le nombre de ses lecteurs a fondu à ce point ?
Alors non, en fait, c'est pas du tout le nombre de lecteurs qui a fondu. D'ailleurs, on estime que c'est un des taux de pénétration le plus important de la presse en Suisse romande, avec probablement 20 minutes. On l'estime à 240 000 lecteurs ou lectrices par jour. Donc c'est pas une question de fonte du lectorat. Tamedia nous a annoncé une perte cette année, enfin pour 2017, de 6,3 millions concernant Le Matin. Et dans le même temps, a annoncé que c'était en très grande partie lié au vol dans les caissettes. Donc il semblerait qu'il y ait 86% de vols dans les caissettes. Pour nous, pour les syndicats, il est évident que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, donc on aurait pu se poser la question de ce problème-là avant. Et puis du coup, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer à distribuer par le biais de caissettes ? Surtout quand c'est un journal qui a le même format qu'un 20 minutes et qu'il est placé à côté en termes de caissettes. Donc évidemment que s'il y en a un qui est gratuit et l'autre pas, vous allez probablement considérer que Le Matin doit aussi être gratuit. C'est pour ça que vous le volez. Donc voilà, c'est pas du tout un problème de perte de lectorat.
Syndicom, le syndicat que vous représentez, Patricia Alcaraz, se bat aux côtés des employés du matin. Concrètement, comment s'organise la résistance et quel est son objectif ?
Alors, autant dire que la résistance n'a pas commencé avec cette crise-là. Ça fait vraiment de nombreuses années qu'il y a des restructurations chez Tamedia et en particulier ici en Suisse romande. En 2016, il y a déjà eu 24 heures La Tribune qui ont subi des grosses pertes au niveau de leurs effectifs. L'année passée, ils ont regroupé les rédactions du matin et de 20 minutes. Ils les ont fusionnées et donc ça a aussi abouti à une dizaine de licenciements. Et donc là, c'est un peu le coup de massue puisque c'était pas une totale surprise d'apprendre que Tamedia voulait arrêter Le Matin. Ça faisait longtemps que c'était à l'ordre du jour chez eux. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même que Le Matin, que Tamedia fasse son annonce, on avait saisi l'office de conciliation vaudois pour être entendu. Donc quand je dis on, c'est Syndicom, Impressum et les rédactions romandes. D'un autre côté, on a créé des groupes de travail au sein du personnel, et pas seulement du personnel du matin. Tout le monde met la main à la pâte pour pouvoir trouver des alternatives à la disparition de ce titre. On a proposé trois alternatives. La première, c'est de garder le titre, parce qu'on estime que Tamedia a largement assez d'argent pour pouvoir supporter cette baisse. Rapidement, ils ont fait en 2017 170 millions de bénéfices. Et depuis 10 ans, il y a 400 millions qui ont été distribués aux actionnaires et 100 millions à la direction et à l'administration et au conseil d'administration. Donc nous, on estime que cet argent pourrait aussi revenir à la force de travail qui, elle, produit 1,5 milliard de bénéfices. Donc il serait qu'on puisse quand même équilibrer. Évidemment que là, ça va être très compliqué de maintenir ça. Le deuxième projet sur lequel on s'est penché, c'est de racheter le titre. Là, je ne vous cache pas que Tamedia estime qu'il n'est pas à vendre puisqu'ils veulent poursuivre avec un produit purement numérique. Mais on s'est dit, soit on rachète le titre, soit on fait quelque chose de différent avec un appui de Tamedia quand même. Et puis la troisième option, c'est, étant donné que Tamedia veut supprimer le print mais garder un pure player, donc le matin.ch, on estime que ce qu'ils ont annoncé comme équipe pour ce pure player, c'est pas assez. Donc nous, on demande à ce que l'équipe soit plus grande, qu'on y mette les moyens vraiment, puisque c'est une nouveauté. Il y a pour l'instant pas de journaux qui aient une assise vraiment importante en Suisse romande, qui n'aient pas un support papier pour appuyer ça. Donc nous, on estime que c'est voué à l'échec s'il n'y a pas le support papier. Donc il faut vraiment mettre des forces dedans, parce qu'ils seront aussi en concurrence directe avec le site 20 minutes, qui lui a un support papier.
Donc, par rapport aux trois propositions, vous n'avez pas eu de réponse, les trois options que vous avez mises en place, que vous venez de présenter?
Non, on attend. En fait, on a eu un échange, ils nous ont demandé des précisions, on les a fournies partiellement, parce que quand on nous demande des noms d'investisseurs pour le projet 2, c'est juste impossible en si peu de temps de dévoiler des noms si les gens n'ont pas un dossier hyper béton, et on a encore besoin de chiffres. Donc on s'est un peu renvoyé la balle jusqu'à présent, maintenant c'est à Tamedia de répondre.
En attendant la réponse de Tamedia, on va écouter la deuxième partie de l'extrait du 19h30 du 7 juin, qui nous trace un peu une histoire du titre le matin.
C'est un journal créé à la fin du 19e siècle. Il s'appelait alors La Tribune de Lausanne, un nouveau quotidien neutre, politiquement peu connoté, à l'époque une première.
Je dirais que c'est un journal populaire qui a souvent reflété ce que j'appellerais l'état d'humeur de la population sur certains sujets qui n'avaient pas la proximité forcément avec des autorités cantonales.
Presque un siècle plus tard, la Tribune devient Le Matin. En 2009, l'éditeur zurichois Tamedia rachète Edipress. Aujourd'hui, avec plus de 34 millions de francs de pertes en 10 ans, l'institution n'est plus viable sous sa forme papier.
Le matin, après l'hebdo et l'ATS qui voit ses effectifs rabotés, on se demande à quoi va ressembler la presse écrite dans 10 ans. Patricia Alcaraz, y a-t-il encore un avenir pour ce type de média? Est-ce qu'il y a encore des fous qui osent se lancer dans l'édition de journaux papier?
Alors, je les appellerai pas des fous. Je pense que faire de la presse écrite, ça a l'avantage de garder une forte distance. Les gens qui travaillent pour la presse écrite sont souvent des journalistes RP, sans compter les équipes techniques, évidemment, mais ceux qui écrivent sont des journalistes RP, donc ils ont une formation reconnue. C'est important d'avoir cette formation-là parce que c'est important de pouvoir vérifier son information, c'est important de pouvoir enquêter, et je pense que le format papier laisse davantage de place à ça, et je trouve aussi que ce format-là permet aussi des opinions qui seront dites d'une autre manière puisqu'elles seront écrites et pas juste prononcées. Je trouve qu'on est beaucoup dans le tout numérique, tout visuel, tout audiovisuel. Et je pense qu'il y a une place pour le papier. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Mais moi, j'aime mieux lire un journal papier et, à la limite, avoir mon œil qui, de temps en temps, voit une pub, plutôt que de lire sur un écran où je sais qu'à côté, je vais avoir un défilé de pubs sans arrêt qui va me distraire. Et je trouve que déjà, rien que de ce point de vue-là, du support, ça pose un problème. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut régler. Mais je pense qu'il peut y avoir un avenir. D'ailleurs, Hersant, actuellement, qui est le troisième plus grand éditeur en Suisse, est en train de projeter la construction d'une imprimerie en Valais, avec probablement une rotative. Donc, c'est qu'il y a quand même encore de l'espoir là-dedans. Donc, et puis, après, il y a la presse habituelle qu'on connaît, mais il y a toute la presse diversifiés et variés, des associations, des syndicats, des plus petits journaux. Il y a des journaux comme Le Courrier qui sont essentiels, dont le support papier est extrêmement important.
Donc vous pensez que par rapport à, aux médias électroniques, audiovisuels, télévision, radio, la presse écrite, vous l'avez déjà dit, vous avez déjà parlé de quelques avantages, est-ce qu'il y a des autres avantages? Et puis vous croyez vraiment que la presse écrite, elle puisse survivre? Et comment? Parce que ça fait pas mal d'années qu'on parle de cette disparition de la presse écrite.
Le problème, c'est qu'on parle d'une... Enfin, le fait d'avoir des liseuses, par exemple, le fait d'avoir la radio ou la télévision, ça n'a pas tué la presse écrite, ça n'a pas tué les livres, par exemple. Ça continue à exister. Je ne pense pas que ce soit une fatalité. Ce qui pose problème, à mon avis, c'est plus difficile que ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Les Guignols en France. Typiquement, quand Bolloré a racheté le groupe Canal+, il a voulu supprimer Les Guignols. Ça a fait un tollé. Du coup, il les a laissés, sauf qu'il a supprimé les auteurs. Les trois auteurs qui faisaient le succès de cette émission, en disant on va en mettre d'autres, qui évidemment n'avaient pas ce ton impertinent et cette liberté aussi par rapport à sa propre direction de dire ce qu'il voulait. Donc, 2 ans après, on arrête Les Guignols et on dit que ça n'a pas d'intérêt, ça ne suscite pas l'intérêt du public. Donc, c'est facile de vider de leur contenu ces journaux. Moi, je pense que si on continue à faire une bonne presse, et qu'on la remplit correctement avec des informations qui sont intéressantes, qui ne sont peut-être pas des informations d'actualité directe, parce que ça, on peut les lire partout, mais qui permettraient de donner une place à des réflexions approfondies sur des thèmes, qui permettraient de peut-être, je ne sais pas, il y a une affaire, typiquement, admettons, l'affaire Hénard à l'époque à Neuchâtel, et à côté, quelqu'un sort ce scoop, 20 minutes fait ça très bien, et puis à côté, on a l'espace dans un journal pour avoir une vraie réflexion, interroger des personnes qui ont une expertise. Ça peut se faire sur un support télévisuel ou audiovisuel aussi, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi ce support papier qui vient apporter autre chose. Mais simplement, il faut alors donner des forces dans les rédactions pour qu'elles puissent travailler. Parce que c'est ce qui se passe au matin, on a réduit l'équipe au minimum vital. Et avec ça, on ne peut pas faire de la qualité.
Pour terminer, Patrice Alcaraz, vous êtes vous-même journaliste, vous avez travaillé pour Le Matin et le journal La Côte. Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience?
Bon, moi, j'en garde un magnifique souvenir. Ça a forgé toute mon expérience professionnelle. C'est souvent des équipes très soudées, c'est ce qui fait qu'on reste longtemps, malgré qu'on ne soit pas toujours en adéquation avec le produit. Moi, au matin, il y avait des fois où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel sujet? Mais il y avait quand même toujours beaucoup d'humour, il y avait toujours quand même une réflexion assez différente du reste de la presse qui donnait envie d'y travailler, et puis il y avait une équipe professionnelle et enthousiaste et prête à faire des sacrifices pour quand même travailler. Et ça, c'est très précieux. Et j'ai retrouvé ça aussi à La Côte, que j'ai commencé à La Côte et puis j'y suis retournée après Le Matin. Et là aussi, c'est des toutes petites équipes qui font vraiment énormément de travail pour continuer à informer les gens parce qu'ils croient au fait que l'information est un bien public, quelque part. Et à force de... On nous dit tout le temps la presse n'est pas rentable, mais elle n'a pas vocation à être rentable. Vous pouvez faire un journal, n'importe qui pourrait faire un journal, mais il ne sera jamais rentable. L'information n'est pas quelque chose de rentable. C'est un bien public, un bien commun, et n'importe qui devrait le revendiquer comme tel.
Donc du coup, une expérience, pour terminer, qui vous permet de mener cette lutte aussi?
Entièrement, ouais. Mais qui est d'autant plus difficile parce qu'émotionnellement, je suis aussi touchée par ce qui se passe, notamment aujourd'hui au matin, parce que c'est d'anciens collègues qui sont touchés, et c'est assez douloureux.
Et puis, actualité oblige, depuis l'enregistrement de cet entretien il y a quelques jours, les événements se sont précipités, Valérie.
Oui, en effet, Fabien, le soir même de cette interview, nous apprenions que la direction de Tamedia refusait en bloc toutes les propositions faites par les salariés du matin pour sauver des emplois et qu'elle démarrait sans plus tarder la procédure de licenciement.
Et puis, quelle était la réaction des salariés et puis forcément des syndicats?
Eh bien, réunis en assemblée dès le lendemain, ils ont décidé de lancer un ultimatum à la direction pour aujourd'hui midi afin de lui laisser une dernière chance de montrer qu'elle respecte ses responsabilités. Cet ultimatum n'a visiblement pas été entendu et c'est pourquoi, à 16h cet après-midi, toutes les rédactions romandes du groupe Tamedia ont pris la décision à 88% des voix de se mettre en grève jusqu'à demain minuit, avec la possibilité de prolonger le mouvement si leurs revendications ne sont toujours pas entendues.
Donc, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de journal demain.
Eh bien, c'est ce que j'imagine, effectivement. Oui. Il n'y aura pas de journal demain.
Ben, on verra tout ça, c'est un geste, effectivement. Nous reviendrons probablement sur l'évolution de ce dossier à la rentrée à partir du mois de septembre. Ce sera notamment avec toi. On compte toujours sur toi, Valérie, pour nous apporter les dernières nouvelles syndicales. À propos de nouvelles syndicales, justement, à 18h18, on termine cette pause avec les brèves syndicales. Fermeture d'OVS, les vendeuses à Venise.
La chaîne italienne OVS, qui avait racheté l'année dernière les enseignes Fugleux, va fermer définitivement les portes de ses magasins en Suisse. 1180 personnes vont perdre leur emploi. La semaine dernière, de nombreuses vendeuses dans toute la Suisse ont protesté spontanément devant leurs magasins. Hier, une cinquantaine de vendeuses d'OVS, soutenues par Unia, se sont rendues à Venise devant le siège italien du groupe pour rappeler à la direction ses responsabilités et exiger un plan social. Car derrière l'enseigne helvétique qui prétend ne pas pouvoir financer un tel plan, se cache un groupe international aux reins solides.
Construction, les maçons mobilisés en force.
Oui, les maçons vaudois ont participé en nombre à la grande manifestation nationale du 23 juin dernier à Zurich pour défendre la retraite anticipée à 60 ans et les acquis de la Convention nationale du gros œuvre. Devant le siège central des entrepreneurs suisses, 18 000 maçons ont lancé un dernier avertissement. Si les patrons campent sur leur position, 93% des maçons consultés par Unia se sont déjà prononcés pour une grève.
Malgré le non à Nobilag, la bataille se poursuit pour les salariés de la RTS.
En effet, suite à l'annonce d'un plan d'économie de 100 millions de francs, le syndicat suisse des mass médias organise le personnel de la RTS en vue de la consultation qui aura lieu à l'automne avec la direction. L'Assemblée des délégués a adressé à la direction une résolution qui demande que la SSR mette entre parenthèses les réorganisations internes jusqu'à l'issue de la consultation. En effet, nul ne sait aujourd'hui ce qui en ressortira et il serait absurde de faire le travail deux fois avec l'argent public. Elle doit également s'abstenir de procéder à des licenciements isolés, non comptabilisés dans un éventuel licenciement collectif.
Cheminots mobilisés pour leur CCT.
La manifestation des cheminots du 18 juin dernier a été largement suivie. 1400 employés des CFF en colère étaient dans la rue à travers toute la Suisse et près de 400 uniquement à Lausanne. Il faut dire que l'exaspération du personnel des CFF est forte contre une direction qui réclame un démantèlement de la CCT. Au programme, un affaiblissement de la protection contre le licenciement et la suppression d'une semaine de vacances pour les salariés de plus de 60 ans. Le directeur des CFF, lui, est inatteignable. Andreas Meyer est en effet en congé sabbatique, 2 mois payés par l'entreprise. Un congé qui passe donc particulièrement mal chez le personnel auquel on veut sucrer une semaine de vacances.
Gare fantôme.
Non seulement les CFF opèrent des coupes drastiques dans les emplois, mais ils annoncent la fermeture de 9 guichets cette année. Le syndicat SEV critique cette déshumanisation des gares qui se transforme en gare fantôme. Y a-t-il un concours entre les CFF et la Poste à qui fermera le plus grand nombre de points de vente? S'est insurgé de son côté le socialiste Stéphane Montangero au Grand Conseil vaudois dans le débat sur la reprise de la gare de Palaiseux par les transports publics fribourgeois.
Voilà donc ce que nous proposaient ce mardi 3 juillet les régions et les délégations régionales des syndicats romands. La prochaine pause syndicale, ce sera avec toi Valérie, ce sera le 4 septembre prochain. Déjà une petite idée de quoi est-ce qu'on va parler ?
L'actualité syndicale bouge et évolue très vite, donc je ne peux pas te donner déjà des informations.
Mais ce sera un sujet brûlant et à fond dans la lutte ouvrière, comme d'habitude.
Comme d'habitude, adieu Fabien.
Merci beaucoup Valérie, un bel été. Merci à toi et à Claudia pour la préparation de cette pause du 3 juillet. Tous les sujets et les pauses syndicales notamment sont à retrouver sur notre site www.django.fm. Voici C2C.